Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue sur Sud Radio. Le retour des voix de la politique. Dans quelques instants, nous retrouverons Guillaume Bigot et Nicolas Corato sur Sud Radio. Nous allons parler d'Assa Traoré, la militante antiraciste et sœur d'Ama Traoré, qui a fait la une du magazine américain Time dans la rubrique Gardienne de l'année. Est-ce que c'est du French bashing de la presse anglo-saxonne contre la France qui serait jugée raciste? On en débat dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Bonsoir à tous, chers amis. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs de 19h à 19h30, en compagnie de Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre « Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française ?» C'est chez Plomb. Bonsoir à vous, mon cher Guillaume.
Bonsoir, mon cher Jean-Marie.
Et votre acolyte du lundi soir est également avec nous, Nicolas Corato. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Politologue, auteur du livre, fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. C'est publié chez Iridium. On va parler de la presse américaine et anglo-saxonne plus généralement ce soir. Vous l'avez entendu, on va parler d'Assa Traoré, gardienne de l'année pour le magazine Time. Assa Traoré qui dénonce le racisme et les violences policières présentes et endémiques selon elle en France. Est-ce que la presse américaine fait du French bashing? On en parle tout de suite. Première question, peut-être pour vous, Nicolas Corato, avez-vous été surpris ou pas, sans jugement de valeur, par la présence d'Assa Traoré dans le magazine Time, gardienne de l'année?
Alors oui, j'ai été surpris parce que je ne pensais pas que le combat que mène Assa Traoré, dont on pourra parler et discuter ensuite, avait été aussi prégnant outre-Atlantique et avait dépassé nos frontières. Ce qui prouve d'ailleurs que ce combat, sur ce plan-là, a plutôt réussi et qu'elle est devenue une icône, y compris internationale. Donc effectivement, oui, j'étais surpris, je ne pensais pas que cette personnalité marquait autant à l'étranger. Mais on est habitué, hein, le Time, regardez les autres gardiens qui ont été nommés par le Time, c'est pas non plus des personnalités mondialement connues. Le Time va dans chacun des pays prélever ici ou là des personnalités. Mais voilà. Oui, globalement, j'ai été surpris.
C'est un coup de cœur.
En bien, comme on dit en Suisse, surpris en bien.
Surpris en bien, c'est un coup de cœur ou en tout cas un coup de projecteur. Alors, vous parlez justement de sa notoriété aux États-Unis. Elle fait le lien entre la France et les États-Unis. Elle explique que son frère Adama, mort au terme d'une interpellation par la gendarmerie, l'affaire est en procès, que son frère, il lui est arrivé à peu près la même chose qu'à George Floyd aux États-Unis, sauf qu'il y avait des caméras pour montrer ce qui était arrivé à George Floyd. Elle dit qu'il n'y en avait pas pour son frère Adama. Guillaume Bigot, est-ce que vous faites vous-même un parallèle ou pas?
Au risque de surprendre, on peut faire un parallèle sur un point, c'est que ce sont deux faits divers et deux arrestations qui vont mal tourner. Ça, c'est le point commun. Maintenant, la question, c'est le sens qu'on donne à ce fait divers et de savoir si ce fait divers est autre chose qu'un fait divers, si il y a une charge symbolique derrière, si c'est politiquement significatif. Et d'abord, la première chose à regarder de près, c'est est-ce que la couleur de la peau d'Adama comme la couleur de la peau de Georges ont été des facteurs déclenchants. Alors, c'est là. Et ensuite, est-ce que ça dit quelque chose du racisme dit systémique, c'est le mot à la mode, des deux pays? Et donc, c'est là où ça pose problème. Ça démarre dans les deux cas par une arrestation qui tourne mal de quelqu'un qui a la peau sombre. Sauf qu'en France, c'est un membre des forces de l'ordre qui lui-même a la peau sombre. C'est un Martiniquais qui va arrêter, un gendarme martiniquais qui va arrêter Adama. Et ce sont des policiers blancs. Et par ailleurs, c'est tout le problème, c'est qu'il y a un montage, un peu comme on fait un photomontage, un montage symbolique, un montage politique, un montage idéologique, puisqu'on sait que les États-Unis d'Amérique, depuis l'origine, sont travaillés par cette question de l'esclavage et ce poids symbolique de l'esclavage. Pour comprendre d'ailleurs le poids dans le présent de cette histoire américaine, typiquement américaine, il faut se projeter dans des départements d'outre-mer français. Quiconque connaît un peu la Guadeloupe ou la Martinique sait ce que c'est que vivre dans un pays qui a été, parce que c'est un pays, une sorte de petit pays, hein, c'est bien sûr la nation française, c'est la France, mais ce sont aussi des régions qui ont leur histoire et leur identité propre. Donc quand on va en Guadeloupe ou en Martinique, on sait le poids que la question raciale a, et on sait que ce poids de la question raciale, on le sent, un lien avec cette histoire de l'esclavage. Et donc, téléporter ça en métropole avec un Malien qui peut-être est le descendant de gens qui ont vendu, vous voyez, c'est un gendarme français.
Oui.
C'est pas impossible.
Non, mais c'est pas parce que tu ne fais pas partie de... C'est pas parce que tu ne fais pas partie de l'histoire de l'esclavage que tu ne peux pas subir un racisme, y compris systémique en France. Je pense que le racisme ne s'exprime pas en fonction de tes origines et de ton de ta généalogie qui te ferait remonter à l'échelle des victimes de l'esclavage. C'est bien plus complexe comme question. On peut pas uniquement réserver.
Je vais revenir.
Comme s'il y avait des bonnes victimes et des mauvaises victimes du racisme.
Je dis simplement que dans la psychologie politique américaine, dans la psychologie politique française, dans la société française, dans la société américaine, le poids de la question raciale n'a pas du tout, du tout le même.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire qu'il faut rappeler à nos auditeurs que lorsque la première armée française d'Afrique débarque en Provence au nom des Alliés, ce sont les Français qui posent les premiers le pied sur le sol français pour libérer la France. L'état-major américain hurle parce que il y a des Noirs qui portent des armes. Donc en 1944, il est hors de question pour les États-Unis d'Amérique, pourtant une grande démocratie, que des nègres, comme ils disent, libèrent le continent
comme
européen.
Comme ils disaient, en tout cas. C'était ce qu'ils disaient, comme effectivement.
Oui, mais c'est encore utilisé aux États-Unis. Il y a une obsession de la couleur de peau aux États-Unis. Et donc on veut, pour des raisons très politique, on comprend bien l'intérêt des gens qui sont derrière et qui tirent les ficelles, qu'il s'agisse d'intérêts américains d'un côté, qu'il s'agisse d'intérêts indigénistes ici de l'autre, on veut absolument forcer ce parallèle. Mais c'est un parallèle qui est faux, ça sonne.
Alors
faux.
Le parallèle, on l'a fait sur ce que disait d'ailleurs Assa Traoré, on va revenir justement à sa présence en couverture de Time Magazine au titre de gardienne de l'année. Elle a réagi d'ailleurs, elle a dit que c'était un honneur, que le monde entier, elle le voyait comme la preuve que le monde entier entendait ce qu'elle dénonce, elle d'ailleurs et les membres du collectif Vérité et Justice pour Adama. On peut aller plus loin, elle explique aussi à la presse américaine ce qu'elle voit comme étant le problème de la France. La violence policière, c'est une suite de ce qu'il y a déjà, je la cite Assa Traoré. La France, pour elle, n'assume pas son histoire colonialiste, son histoire de l'esclavage. Et ça, c'est nous, dit-elle, donc j'imagine les personnes noires qui le prenons de plein fouet. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse, Nicolas Corato, puisque vous dites qu'il peut exister un racisme systémique, c'est un des principes qu'elle défend.
Mais ce qui est intéressant dans cette histoire du Time, c'est le regard que la presse, cette presse étrangère porte sur notre pays et qui est très en décalage avec les débats qu'on y tient. Pour cette presse étrangère, le fait de mettre à l'honneur Assa Traoré, c'est reconnaître que la France a un problème avec le racisme et peut-être aussi reconnaître que la France a un problème avec les violences policières. D'ailleurs, le président de la République lui-même vient de reconnaître, il y a quelques jours sur Brut, que ce pays avait un problème avec les violences policières. Il a utilisé le mot après avoir beaucoup renaclé, mais il a fini par l'utiliser. Oui, je pense, et c'est pas la première fois que je le dis, que ce pays a un problème avec le racisme. Ce pays a un problème avec le communautarisme, ce pays a un problème avec le radicalisme religieux, mais ce pays a aussi, il faut le reconnaître, un problème avec le racisme. Il y a une forme de racisme systémique dans notre pays qui n'est pas uniquement liée à l'histoire de la colonisation, qui prend beaucoup plus sa part dans l'histoire récente de l'immigration et du fait qu'on a mal intégré un certain nombre de populations, qu'on a refusé d'intégrer un certain nombre de populations. Et moi, je trouve très intéressant, non pas le parcours d'Assa Traoré, non pas l'histoire même d'Adama Traoré, non pas ce fait divers odieux qui peut être un assassinat ou qui sera simplement un accident. Et ça, il appartiendra à la justice de le dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il en ressort. C'est-à-dire que ce malaise qui qui tient à une famille au départ devient le malaise d'une grande partie de la population, d'une population plutôt jeune, qui n'est pas une population délinquante et qui se retrouve finalement sous la même peur, sous la même pression et sur la même dénonciation de ce racisme systémique. Alors, on peut ne pas l'entendre, on peut renvoyer tous ces gens-là à la délinquance, à la marginalité, à l'ostracisme, au racisme qu'eux-mêmes pourraient exprimer vis-à-vis des Blancs. On a tout entendu sur le sujet. Mais ce que dit la couverture de Time, non pas la couverture, mais cette photo de Time,
cette
c'est
photo,
que
oui.
Ce serait quand même incroyable que la France passe à côté de ce sujet. Il y a un sujet.
Il y a
Et
un
moi,
sujet
j'aimerais bien
pour
qu'on
vous
l'explore
sur le
jusqu'au
racisme
bout.
systémique. Avant de donner la parole à Guillaume, définissez en quelques mots ce qu'on appelle le racisme, ce que vous appelez le racisme systémique. C'est quoi la différence avec le racisme tout court?
Mais on va dire que c'est un racisme qui prendrait sa source et qui serait devenu un outil de gestion sociale, le
Et pour vous,
racisme
c'est ce qui, ça
systémique.
existe en France?
Écoutez, je ne sais pas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous en avez beaucoup vu, vous, des personnalités françaises de couleur noire, de couleur de peau noire, qui sont devenues des personnalités au niveau national. Vous en avez vu beaucoup jusqu'à ce que le Time ayant cherché. C'est intéressant quand même. Est-ce
Alors,
qu'on en voit beaucoup à des
c'est une
postes de
bonne question, effectivement.
responsabilité? Quel est le problème de tous ces gens pour aller trouver un emploi à formation égale? Le taux de chômage chez ces personnes dites, entre guillemets, ça va plaire à Guillaume, dites racisées. Bref, il y a un sujet quand même sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on ne peut pas mettre uniquement de côté comme ça, avec quelques arguments rhétoriques.
Guillaume Bigot.
Là, c'est difficile de savoir par où commencer. Il y a
Effectivement.
tellement de biais.
Bon, d'abord, est-ce qu'il y a une
Bon, sincèrement,
discrimination, un racisme systémique en France qui ferait que des personnes
non, mais
qui sont noires
il
se verraient barrer l'entrée à des postes à responsabilité? C'est ce que disait notamment Nicolas.
Alors, la question de l'accès, de l'égal accès à l'emploi et tout ça, mais puisqu'on était sur la question des violences policières, moi, c'est un terme que je récuse complètement. Il n'y a pas des violences. Enfin, certains policiers sont violents. C'est une évidence même. Il y a des bavures, c'est une évidence même. Il y a même du racisme, des cas de racisme dans la police. Hein, voilà. Mais on voit bien quand même le glissement sémantique. Que des policiers soient violents, que des policiers soient racistes, ça devient le racisme de la police, les violences de la police, les violences policières. Et en fait, c'est quand même une attaque en règle, je dirais même pas seulement contre la démocratie. C'est une attaque en règle contre la notion même d'État. C'est-à-dire que l'État, c'est quand même le monopole de la violence légitime. Donc, si on considère que la police n'a plus le droit de rétablir l'ordre, y compris par la force, face à des violents, bon, si vous voulez, là, au bout d'un moment, on attaque même à la racine l'État, mais c'est ce que certains veulent en réalité. Deuxièmement, je pense qu'il y a un sophisme très simple, en fait, des sophismes, on peut les enchaîner les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que, oui, comme 90% ou 80 ou 90% des actes de petite délinquance, des actes de trafic, etc., surtout dans certains quartiers, sont commis par des gens noirs ou arabes venant du Maghreb ou d'Afrique, dont les parents sont venus du Maghreb ou de l'Afrique. Évidemment, ça devient l'idée, on peut glisser de l'idée que tous les Africains ou tous les descendants d'Africains ou tous les Maghrébins ou tous les descendants de Maghrébins seraient automatiquement des délinquants. Et on peut encore aller plus loin, un cran plus loin, en disant que puisque les policiers les arrêtent en priorité ou contrôlent leurs papiers en priorité, c'est donc qu'ils sont racistes, etc. Moi, je pose deux questions très simples, tout le monde comprendra en réalité, hein. Comment voulez-vous faire enfin, qu'est-ce que c'est du contrôle au faciès dans un département comme la Seine-Saint-Denis? Voilà. Quand vous contrôlez des papiers de gens qui ont l'air bizarres et souvent qui s'adonnent à des trafics le soir dans certaines banlieues, bah oui, le contrôle au faciès est contrôlé des blancs alors, parce que c'est quand même la minorité. Deuxièmement, est-ce que vous entendez la communauté asiatique en France se plaindre des contrôles aux faciès, du racisme systémique, etc.? Tout ça est complètement délirant. Donc en fait, je pense qu'il y a, c'est pas que je nie l'existence d'actes violents dans les rangs de la police ou de bavures, c'est pas que je nie non plus l'existence d'un racisme assez résiduel, je pense, en France, mais la vérité n'est pas du tout là où on croit. En fait, il y a un déni. Il y a une espèce de, et c'est pour ça que la question du lien avec le passé colonial, voire même avec le passé esclavagiste et toute la dimension symbolique que ça charrie n'est pas inintéressante du tout à interroger, parce que c'est un discours qu'on entend un peu non seulement à l'emporte-pièce, mais extrêmement incendiaire, qui est repris par les États-Unis d'Amérique, et on comprend bien pourquoi, parce que les États-Unis d'Amérique ont une énorme culpabilité, donc ça allège leur culpabilité de penser que finalement tous les pays blancs qui ont aussi un passé colonial seraient comme eux tout aussi racistes. En fait, les choses sont plus compliquées que ça. Il y a une forme de ressentiment qui s'exprime dans les deuxièmes ou même troisièmes générations, peut-être d'ailleurs avec un espèce d'effet de retard, ça existe. Et en fait, le véritable racisme, c'est interdit de le dire, mais c'est pourtant la vérité, c'est un racisme anti-blanc. C'est souvent chez les rappeurs qu'on entend pender les blancs, mais tuer les blancs.
Alors, pourquoi dites-vous le véritable... Alors, pardon, pourquoi dites-vous le véritable... Pardon. Pourquoi dites-vous le véritable... Attendez un petit peu tous les deux. Pourquoi dites-vous le véritable racisme, Guillaume Bigot? Guillaume Bigot, juste deux secondes, j'aimerais vous faire préciser vos... Guillaume Bigot, j'ai compris que ça passait crème, j'aimerais vous faire proposer, préciser votre pensée. Pourquoi dites-vous que le véritable racisme, c'est le racisme anti-blanc? Ça veut dire quoi? Les autres n'existent pas et que le vrai problème, c'est le racisme anti-blanc? Qu'est-ce qui
non,
vous permet de dire ça?
Non, c'est une question de proportion. Il y a bien sûr un racisme, disons, il y a des gens qui sont encore racistes, c'est plutôt des gens très âgés, d'ailleurs, qui avaient ce genre de préjugés. Dans les jeunes générations, vraiment, le racisme est très, très résiduel. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très résiduel. Il suffit de le voir à travers les mariages mixtes, il suffit de le voir à travers les personnalités. Comment un pays qui a un racisme systémique, on peut expliquer qu'Yannick Noah et Omar Sy sont les acteurs les plus appréciés, voire même les personnalités les plus populaires en France? Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
Nicolas Corato.
Non, mais moi, l'argument du racisme anti-blanc, ça, pour le coup, c'est du sophisme. C'est du sophisme bien utile pour nier une réalité, parce que je peux comprendre que dans certains quartiers, effectivement, les blancs subissent un certain racisme. Mais aujourd'hui, le racisme, c'est quoi la définition du racisme? C'est quand même à un moment de subir une discrimination perpétuelle qui s'exerce sur sa personne. Quand on est blanc dans ce pays, on connaît pas le racisme. Sauf à quelques exceptions. Pardon, mais le racisme s'exerce principalement sur un certain nombre de personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont noires, qui sont maghrébines d'origine et qui ont du mal effectivement à vivre dans notre pays en s'affirmant en tant que tel. Voilà. Donc ce racisme systémique.
Pardon Nicolas, de t'interrompre. Qu'est-ce que ça veut dire s'affirmer en tant que tel? Parce que moi je vois très bien qu'ils ont des problèmes en effet, puisque la plupart d'entre eux sont venus dans un pays qui était déjà en crise avec beaucoup de chômage. Donc leur intégration n'a pas bien fonctionné.
Ils sont pas venus, Guillaume. Là, on parle de gens qui ne sont pas venus. On parle de gens. Tu parlais des nouvelles générations qui sont nées en France. C'est le cas d'ailleurs d'Assa Traoré, qui est d'une famille où tout le monde est né en France. Donc tous ces gens sont français et en tant que français, il faut le dire, ne subissent pas ou n'ont pas le même cheminement en termes d'égalité de droits qu'un certain nombre de citoyens qui sont d'une autre origine ou d'une autre couleur de peau. Il faut le reconnaître. Ça, c'est une réalité. Et moi, je veux bien traiter le racisme anti-blanc le jour où on reconnaît qu'il y a un racisme systémique dans ce pays qui fait qu'un certain nombre de populations n'ont pas accès aux mêmes droits, que l'ensemble de nos concitoyens.
Guillaume Bigot.
Ils n'ont pas accès aux mêmes droits, exactement comme les gens de la France périphérique, qui sont tout aussi, pardon d'être grossier, mais dans la merde socialement et économiquement, c'est-à-dire qu'ils sont loin des métropoles où il y a du travail, ils subissent un taux de chômage énorme, ils n'ont pas accès aux informations, ils n'ont pas accès à de la mobilité sociale et ils sont bloqués. Oui. Quand on habite à Romorantin, qu'on a un petit long, on est exactement dans la merde.
Tu as raison. Mais quand on a.
Mais
quand
simplement, on n'a pas le totem.
Guillaume.
On n'a pas
Guillaume,
le totem d'immunité. Voilà, c'est
Guillaume, quand on habite à Romorantin. Quand on habite à Romorantin et qu'on a des origines maghrébines ou la peau noire, c'est encore plus difficile que quand on est un petit blanc à Romorantin. Et ça, moi, je voudrais qu'on le regarde aussi dans les yeux. Regardons la France dans les yeux, pas uniquement la France qu'on projette en termes d'imaginaire ou de futur combat politique.
Il faut surtout regarder cette réalité de la France. Nicolas, c'est un débat vif et tant mieux. Il faut retirer les lunettes américaines. Parce que la plupart des bobos parisiens regardent le monde en voyant que des bagels, des hamburgers, New York, l'Amérique, George Floyd, etc. Retirez vos lunettes de bobo et regardez la France telle qu'elle est.
Mais Guillaume, nous sommes tous les deux des bobos, Guillaume. C'est toi qui as des lunettes, pas moi.
On va pas terminer ce débat sur ce qui est dit qu'il est. Une question, oui, non, comme toujours, Nicolas Corato et Guillaume Bigot. Pardonnez-moi. Une question, vous répondez en oui, non. Une des différences avec les États-Unis, c'est qu'il y a des statistiques ethniques. Vous êtes afro-américain, vous êtes asiatique, vous êtes latino, vous êtes blanc. Est-ce qu'il faudrait que ce soit autorisé en France ou pas? Oui ou non, Nicolas?
Non, moi je suis contre les statistiques ethniques qui pour moi confinent au communautarisme. On ne peut pas être contre le communautarisme et pour les statistiques ethniques. Voilà.
Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que, en fait, pourquoi cet argument de retirer ses lunettes? Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en termes de mariage entre communautés en France. Les mariages mixtes sont énormes. J'ai dans ma famille des gens maghrébins, africains, etc. Je pense que dans toutes les familles françaises, c'est le cas. Le racisme systémique, c'est une énorme poilade. C'est une
rigolade. Pour vous, le racisme a reculé en France.
De beaux quartiers qui se prennent pour des Américains.
Ils se seront reconnus, en tout cas, ceux qui étaient visés. Guillaume Bigot, est-ce qu'il faudrait ou pas des statistiques ethniques, justement, pour prouver l'existence ou l'inexistence de discrimination ? Oui, non ?
Non, ça me paraît complètement en contraire à nos principes, c'est certain.
Bon, ben vous voyez, j'aurais réussi à vous mettre d'accord. À la fin, quand même, les amis, merci à tous les deux d'être intervenus dans Les Voix de la Politique, comme tous les lundis soirs sur Sud Radio. Guillaume Bigot, politologue, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs, c'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.